l'inauguration du Spaces Grand Arena à Nice sur Radio Imo et Cowork la radio.
Bonjour à tous et bienvenue à l'occasion de cette émission spéciale. Nous allons passer ensemble tout l'après-midi en direct sur Cowork la radio et Radio Imo à l'occasion de l'inauguration qui s'est quand même tenue il y a quelques semaines du Spaces Grand Arena de Nice que nous allons découvrir, qui est flambant neuf, qui est magnifique et qui se remplit. On va avoir plusieurs temps forts cet après-midi. Nous allons parler de la tendance du flex-office, de celle de la mobilité également de plus en plus présente dans l'immobilier et dans nos vies. Mais avant, je vous propose de dresser un panorama du marché immobilier de Nice, de sa métropole. On va également passer par Sophia Antipolis, puisque comment parler du marché immobilier sans parler de Sophia, avec trois, quatre même premiers invités plutôt prestigieux. Je suis très bien entourée pour ce premier plateau. Je suis d'abord ravie d'accueillir le maître des lieux. Bonjour Christophe Burcard.
Bonjour Johanna.
Vous êtes directeur général d'IWG France et c'est à vous que l'on doit ce magnifique Spaces de Nice Grand Arena. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de cet espace ?
En quelques mots, c'est un Spaces qui rejoint un réseau très large maintenant, puisque Spaces, qui est l'inventeur historique du coworking communautaire, a rejoint le groupe en 2014. Il y avait 6 Spaces à l'époque aux Pays-Bas. Aujourd'hui, c'est 400 Spaces. Un peu partout dans le monde, dans 60 pays. Et en France, nous avons lancé la marque en 2017 et nous avons à peu près aujourd'hui une quinzaine de Spaces un peu partout en France qui représentent à peu près 100 000 m² de bureaux.
Un essor qui témoigne finalement de la réponse à ce besoin de mobilité, de flex, dont on parlera tout au long de l'après-midi. Et juste avant, on va quand même saluer ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Bonjour Fabrice Alouche.
Bonjour et merci pour cette invitation.
Mais avec plaisir, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le président de CBRE, le géant de l'immobilier d'entreprise. Ne levez pas les yeux au ciel, on sait tous que c'est la vérité.
Oui, on peut le dire.
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'un géant ? C'est quoi ? La définition du géant dans l'immobilier.
À dimension internationale.
Oui, exactement. Non, mais on est une entreprise assez impressionnante, puisqu'on continue de croître. On est passé de 23 à 27 milliards sur deux exercices. On est maintenant plus de 100 000 personnes dans le monde. On est présent dans plus de centaines de pays. Il y a plus de 500 bureaux dans le monde, donc c'est assez impressionnant, effectivement. En France, en revanche, juste pour vous donner un ou deux indicateurs, Christophe nous connaît bien, c'est qu'en 5-6 ans, on a simplement doublé la population, doublé le chiffre d'affaires, doublé les revenus, la marge, donc on peut être assez fier de ce qu'on a fait. Et cette année, on est à peu près 1500 personnes dans le groupe, sur les quarantaines de bureaux en région. Et on va faire un chiffre d'affaires de 377 millions d'euros, ce qui est historique pour nous, puisque malgré le Covid, on a réussi à surmonter tout cela et à faire cette performance.
C'est pas neutre.
Et celui que vous entendez, c'est Sylvain Lévy-Valency qui m'accompagne tout l'après-midi et déjà sur cette première table ronde. Bonjour Sylvain.
Bonjour Joanne.
Vous êtes venu avec moi jusqu'à Nice.
Je suis ravi de faire l'éditorialiste avec vous.
Vous êtes toujours ravi d'être à la radio, de toute façon, Sylvain.
Je suis né ravi, je mourrai ravi.
Le temps de saluer notre dernier invité. Bonjour Alexandre Vernier.
Bonjour Johanna.
Vous êtes-vous le cofondateur de LocoPro? Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter LocoPro en quelques mots?
Alors, en quelques mots, c'est un cabinet indépendant spécialisé en immobilier d'entreprise dans les Alpes-Maritimes. Et on se positionne comme un des leaders sur le secteur au niveau tertiaire.
Eh bien, parfait, c'est pile dans le sujet. Le tertiaire, justement, on a tendance à penser à Nice, à sa métropole, et je le disais tout à l'heure, à Sophia Antipolis, qu'on va rajouter dans cette grande carte, dans ce grand paysage, comme un espace très dynamique pour l'immobilier tertiaire, donc qui comprend le bureau, la logistique, les entrepôts, les commerces également. Alors, mythe ou réalité, messieurs ? Fabrice Alouche.
Vous parlez sur la région niçoise ?
Exactement.
Je vais laisser Alexandre répondre, parce que franchement...
Ça botte en touche, c'est bien pour commencer. Alexandre.
Il faut bien être conscient de ce qu'on peut faire.
Oui, voilà, exactement. Qu'est-ce que vous entendez par mythe ou réalité au niveau de la région niçoise ?
Est-ce que c'est vraiment aussi dynamique qu'on peut le penser ?
C'est très dynamique. On est coincé entre la mer et la montagne, donc c'est vrai que le foncier est assez rare. Et malgré ça, on arrive à sortir des opérations et on voit que la demande placée monte en puissance d'année en année.
Christophe Burcard, vous qui hébergez, qui offrez des espaces aux travailleurs de tous bords, vous ressentez également ce dynamisme du territoire ?
Oui, le dynamisme est fort, puisqu'on a deux centres à Sofia, bientôt un troisième. On a 5 implémentations à Nice, donc on est présent et ça se passe très bien. Il y a malgré tout une vraie différence en termes de profil d'utilisateur entre Nice, où on voit des sociétés, des entreprises de plus petite taille, beaucoup d'entrepreneurs de profession libérale. Et donc nos centres sont remplis de plusieurs entreprises, là où à Sofia, on a des plus grands projets qui dépassent assez régulièrement 100 mètres carrés. Donc on parle là de PME, évidemment souvent dans le domaine de la tech. Donc deux profils différents et assez complémentaires.
Donc ce sont vraiment finalement deux territoires distincts, même si vu de Paris, par exemple, on pourrait penser qu'il s'agit un peu de la même typologie, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas du tout.
Sylvain, vous avez quelques mots sur ce territoire, quelques chiffres peut-être ?
Alors, justement, on s'est amusé à imaginer un petit peu quel était cet écoquartier qui a été construit sur une surface d'environ 30 000 m². C'est Dumez qui a livré cet ensemble à Sogeprom et Rivaprim. Ça a été livré en novembre dernier. C'est un formidable, on va dire, quartier totem, puisque on a toute la mixité d'usage. On a toutes les classes d'actifs représentées, on a du tertiaire, on a du retail, on a du logement. Ce qui est très intéressant, c'est la proximité aéroportuaire. C'est vraiment un quartier d'affaires qui est à proximité aéroportuaire. C'est la ligne 2 du tramway. On est quasiment à 3 minutes de l'aéroport. À pied, on peut mettre à pied un petit quart d'heure. C'est extrêmement rapide. C'est très intéressant parce que c'est très intégré dans la ville de Nice. Ça, vous le savez bien. Donc, il y a une proximité à la fois entre l'habitat. Il y a à la fois aussi un échange multimodal qui permet en fait d'avoir toutes les mixités de mobilité et plutôt une mobilité douce. C'est 1600 tonnes de béton coulé sur l'ensemble avec une emprise carbone extrêmement maîtrisée. Une étiquette énergétique défiant toute concurrence, donc une qualité à la fois empreinte carbone de très bonne qualité. J'allais dire que ce quartier, il inaugure complètement une certaine forme d'urbanité. C'est l'architecte Leclerc qui a fait ce formidable ouvrage. Pour mémoire, c'est la même agence d'architecture qui a bâti le fameux rapport Girometti-Leclerc. Voilà.
Alors, petite précision, au niveau de ces 30 000 m², on parle uniquement de l'opération Nouvelle Air.
Oui,
dans
Nouvelle
Air,
pardon,
situe,
Nouvelle Air, oui,
pardon. Spaces, puisque l'Arena se comprend 140 000 m² de bureaux et se situe en effet en entrée de ville.
Alors, vous avez raison, Alexandre, parce qu'effectivement, je prenais Nouvelle Air comme étant un petit peu l'exemple totem avec finalement une approche extrêmement intéressante, parce qu'on voit bien que dans le dessin, en fait, c'est un quartier qui était particulier, puisque c'est un quartier qui, à l'origine, avait quand même une certaine forme d'industrie. En fait, avec une proximité, il y avait une ligne de train qui desservait Vintimille à proximité et qui, du coup, effectivement, représente un ensemble extrêmement intéressant sur cette surface développée. Moi, je pense qu'en termes d'architecture, surtout quand on est à la marque de Spaces, parce que Spaces, finalement, ça a été repris en 2016, je crois.
2014.
C'était un ensemble avec un concept qui s'est considérablement développé. Christophe, je pense que l'empreinte d'un Spaces dans un quartier aussi innovant, je pense qu'on est dans le cœur de l'ADN du concept de Spaces.
Je dirais, mais pas que, puisqu'on a un centre qui est un HQ, qui fait partie également du réseau IWG, avec un positionnement différent, plus classique, et un positionnement également en entrée de gamme pour des entreprises qui ont des budgets plus serrés et qui fonctionnent extrêmement bien. Et on arrive avec Spaces sur cette zone-là, ce qui nous permet d'aller chercher des clients avec des profils différents, qui souhaitent avoir une expérience, on va dire, plus moderne dans l'approche des espaces de travail, avec plus d'échanges, plus de design dans les aménagements, etc. Donc ces deux centres coexistent parfaitement bien. Et la zone d'Arenas, comme vous l'avez dit, est une zone très intéressante d'un point de vue transport. C'est vraiment un nœud de transport. Et puis ça nous donne également, je dirais, une position de lancement pour aller ensuite vers le nord, vers la plaine du Var, où on pense que les prochains développements immobiliers se trouveront.
Alors, il y a une chose qu'on peut ajouter, effectivement, et c'est intéressant pour vous, Fabrice Alouche, effectivement, c'est que souvent, on prend la région, quand on prend la région en tant que telle, on se dit que finalement, dans le produit intérieur brut de cette région, on se dit que l'activité touristique est vraiment l'essentiel du revenu de la région. Et on se rend compte, c'est assez paradoxal, quand on va un peu plus loin, quand on voit en fait l'ensemble de la métropole, on se rend compte que c'est une des places tech les plus attractives d'Europe.
Alors, en effet, oui, Sofia Antipolis a une vraie image internationale. Comme le soulignait Christophe auparavant, on n'est pas du tout sur le même profil d'utilisateur pour faire un parallèle avec ce qu'on vit au quotidien au niveau tertiaire. Et on a une vraie casquette internationale sur Sofia Antipolis qui attire des entreprises qui ne cherchent que à Sofia Antipolis, par exemple.
Et d'ailleurs, dans leur ADN, puisqu'on a aussi cherché à savoir quel était le mode de consommation sur les mètres carrés, sur le mètre carré ou sur l'espace de travail, on voit bien que les tendances flex office, coworking se développent de plus en plus et deviennent véritablement une des données, j'allais dire une des données du bilan des entreprises. Est-ce que vous, Fabrice, vous partagez cette même idée que cette région, quelque part, elle adoptait finalement...
Oui, je dirais. Alors d'abord, hein, là, c'est la première Silicon Valley en France, hein,
exactement,
qu'il faut le savoir. Ça a été recréé il y a une quarantaine d'années. Et beaucoup de cadres étrangers sont venus s'implanter ici. C'est ce qui a donné la dynamique locale. Après, il y a eu d'autres centres qui se sont développés à travers la France. Mais je dirais, pour revenir, moi, je vais dépasser le cadre de la région, parce que de toute façon, aujourd'hui, et Christophe le sait pertinemment, il faut faire évoluer. Tout le monde a fait évoluer ses modes de travail. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je lisais un article, j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était l'évolution entre la façon de travailler et la raison de travailler. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase, parce que d'un côté, les façons de travailler, ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'on en parle. Le Covid nous a beaucoup incité à réfléchir. Donc, on est tous passés en flex, on est tous passés en télétravail, on est passés, alors le coworking nous a beaucoup aidé, etc. Donc on voit bien que tout ça est en train d'évoluer. En revanche, ce que je trouve encore plus pertinent et plus intéressant aujourd'hui dans l'évolution, c'est le côté un peu ethnologie, de réflexion sur le well-being de l'individu qui vient travailler et donc qui intègre une communauté, qui intègre un cadre et qui vient pour savoir dans quel contexte il va travailler. Moi, je trouve ça passionnant. Puisqu'en fait aujourd'hui on travaille davantage sur la communauté, sur le, on parle des cadres, on parle de l'environnement, l'attraction des talents, etc. Donc tout ça devient extrêmement intéressant. Et d'ailleurs je pousse encore plus loin la réflexion. J'ai participé à un petit colloque il n'y a pas longtemps où j'ai été un peu le perturbateur de service. Enfin, en tout cas, on me l'avait demandé, et vous savez que je suis assez spécialiste pour ça. Et donc, en fait, je disais quasiment qu'il fallait totalement déstructurer la société au niveau du droit du travail, puisque de toute façon, les 35 heures, maintenant, avaient de moins en moins de sens, à partir du moment où là, on a tous les moyens de travailler aujourd'hui, à n'importe quel moment, que nos jeunes qui nous guident quand même, hein, c'est pas nous qui guidons, c'est plutôt la jeunesse qui nous pousse. Et donc, on voit bien que la liberté de travail, on est plus sur la notion de tâche, de charge de travail, plus que de temps de travail. Donc, tout ça est en train de faire évoluer les modèles. Et donc, on voit bien que le bureau, pour revenir au bureau, il y a cette ambiance qu'on... D'ailleurs, c'est magnifique, hein, bravo, parce que moi, je n'avais pas visité avant, donc ça, c'est une très belle réussite ici. Mais ce modèle-là, on le reproduit dans les bureaux, même pour les bureaux qui sont fermés, les bureaux qui sont en espace ouvert. Donc moi, je trouve très passionnant cette évolution. En 40 ans, on a vu cette évolution. Moi, d'ailleurs, il faudrait saluer quelqu'un qui s'appelle Bertrand-Julien Laferrière, pour ceux qui le connaissent, qui était patron de la foncière lyonnaise il y a 10-20 ans.
Tout à
fait. Qui a
fait,
et le premier à apporter, d'ailleurs, il a écrit des ouvrages là-dessus, sur cette évolution. Et il avait raison 10 ans avant, puisqu'il avait expliqué toutes les évolutions.
Absolument.
Et que la notion de prix du mètre carré n'avait plus aucun sens en soi, puisque c'était comment on allait attirer les meilleurs talents dans les meilleurs endroits pour avoir les meilleures exploitations. Et aujourd'hui, on le vit encore plus, on le vit pleinement.
C'était le premier d'ailleurs à parler de la maîtrise des usages.
Exactement.
Qui précéderait finalement et l'espace après, en voilà. lui-même.
Et ensuite, on va rajouter une note ESG, c'est peut-être aller un peu loin. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça fait partie des critères aujourd'hui des investisseurs. Je ne vais pas parler du monde de l'investissement, mais si vous souhaitez, on peut le faire. Où on voit bien que les investisseurs aujourd'hui sont à la recherche d'actifs qui sont donc greenés, entre guillemets. Donc c'est labellisé, etc. Et surtout, qui vont permettre d'avoir cette notion de décarbonation, parce qu'on l'oublie complètement. On parle de réhabilitation des actifs pour répondre à la loi climat-énergie. Mais au-delà de ça, la loi climat-énergie était relativement simple, 2030, 40% d'économie d'énergie, et puis ce qui se passe après. Mais en revanche, il est extrêmement intéressant de comprendre que l'environnement, le bassin dans lequel vous allez évoluer est extrêmement important. Donc ça veut dire que la décarbonation, pour préciser ce que c'est tout simplement le coût de production de carbone de chaque individu qui vient travailler, donc qui vient mais qui travaille, et qui aura un impact de toute façon sur les produits et surtout leur localisation, bien évidemment.
Est-ce qu'un cadre comme celui qu'offre Nice, Sofia et la métropole de Nice est idéal pour ces bureaux vertueux ?
Alors vertueux, oui, parce qu'on peut les développer partout. Après, c'est un problème de climat et de température, il faut s'adapter. Mais à titre personnel, je suis ravi, parce que moi, je viens de m'implanter dans le coin, dans le secteur, et Georges le sait bien, qui gère le bureau de Nice. Moi, je suis ravi de descendre et de venir ici m'installer, donc travailler en même temps à Nice. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas.
Non, mais c'est intéressant, parce que la qualité de vie, elle devient de plus intéressante. Il y a eu un phénomène aux États-Unis, on en a parlé beaucoup ces derniers temps, qui s'est appelée la grande démission.
Oui.
Vous avez entendu parler. C'est 6 millions de personnes qui ont démissionné du jour au lendemain. Et 80% d'entre elles n'avaient pas de boulot secondaire. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient démissionné pour un autre boulot. Ils ont démissionné. Quand on les interroge, puisque effectivement le phénomène touche l'Europe, on en a beaucoup parlé avec Christophe, touche l'Europe, on voit, ça a un petit peu, j'allais dire, rendu un peu schizophrène les asset managers et ceux qui font de la gestion d'actifs sur cette classe d'actifs, parce qu'effectivement, on s'est dit, un raccourci un peu court sur le bureau est mort, finalement, on n'aura plus d'espace, etc. À la faveur d'un confinement qui n'a certainement pas arrangé les choses, on se rend compte en fait qu'en réalité, le retour au tactile physique, quelque chose d'inhérent finalement dans la nature humaine, et non seulement le bureau n'est pas mort, mais loin de là, Est-ce que vous, Christophe Burkhard, vous pensez que finalement ces phénomènes mis bout à bout entre le confinement, cette grande démission qui touche un petit peu l'Europe, cette quête de sens, redéfinir, rebat les cartes en fait finalement de ces nouveaux usages? Et j'allais compléter ma question avec, est-ce que la panacée, ça va être finalement de recréer des espaces qui ressemblent un peu à la maison, à quelque chose qui est cosy, qui est sympa, où on aime se retrouver ou pas?
Alors sur la première partie de votre question, vous parliez de la grande démission. Donc moi, je parlerai de la grande disruption, parce que les usages, effectivement, se révolutionnent et poussent les acteurs immobiliers comme nous à penser différemment. Je crois qu'il y a quatre grands paramètres à avoir en tête qui expliquent le bouleversement qu'est en train de connaître notre industrie. Et j'ai envie de dire enfin, parce qu'on était quand même sur un modèle extrêmement conventionnel, alors que d'autres industries, comme l'industrie du film avec Netflix, s'est révolutionné, le transport avec Blablacar, etc. Et nous, on continuait à avoir 98% du marché dont les transactions se faisaient sous la forme de bail conventionnel pour lesquels les entreprises doivent s'engager sur 9 ans, 12 ans, comme si elles étaient incapables d'anticiper, d'anticiper sur de ces longues durées. Voilà. Donc, premier point, évidemment, beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de flexibilité. C'est ce que demandent les directions immobilières et les directions financières pour pouvoir s'adapter au cycle économique, financier et maintenant pandémique. Donc vous avez besoin de pouvoir gérer vos engagements en fonction de la situation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mise en place du télétravail. Avant la crise, 20% des entreprises en France. Après la crise, aujourd'hui, à peu près 70%. Après la mise en œuvre et le sujet, comment vous mettez en œuvre ces points-là, on a la chance de mettre à disposition de ces entreprises un réseau en France de 136 sites dans 76 villes. Et donc ces entreprises, au-delà de permettre à leurs collaborateurs de travailler au sein de leur domicile, peuvent aussi mettre à leur disposition tous ces points-là pour passer d'un système où on a un lieu de travail à un système où on a des lieux de travail.
C'est les fameux tiers-lieux ?
Voilà, exactement, ce sont les tiers-lieux.
Donc
voilà.
Est-ce que le télétravail va perdurer, Christophe ?
Clairement, on ne pourra jamais revenir en arrière. De toute façon, c'est aujourd'hui, on parlait des talents tout à l'heure, et d'ailleurs c'est mon troisième point, c'est la partie HR. Moi j'étais dans une visite, j'ai fait une visite ce matin d'un bâtiment avec un partenaire, on pourrait prendre à deux ce bâtiment, il y avait la DRH de l'entreprise. De ce partenaire avec nous, et je lui ai demandé pourquoi elle était là. Elle m'a dit parce que c'est mon meilleur moyen de pouvoir recruter à la vitesse à laquelle j'ai besoin d'attendre, et moi qui arrive. Donc le lieu, la localisation, tout ça sont des sujets importants. Et donc quand vous regardez les études, eh bien le télétravail, les conditions de travail, l'environnement de travail est maintenant au même niveau que le critère de la rémunération lorsqu'un quelqu'un choisit son employeur. Donc offrir des lieux comme vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, avec du service, avec de l'aménagement, c'est très très important. Ça, c'est le troisième point. Puis le dernier point, Fabrice en a parlé, lorsque vous prenez des systèmes comme les nôtres, vous travaillez à l'endroit qui correspond à votre agenda, et donc vous passez moins de temps dans les transports, donc vous aidez l'émission de CO2, vous la diminuez. Et donc voilà, il y a une espèce d'alignement des planètes pour notre business, ce qui fait que quand on compare le niveau de demande chez IWG France par rapport à la période pré-Covid, on est sur des croissances de l'ordre de 40 à 45%.
Alors pour corroborer ces chiffres, effectivement, ça nous donne, parce que l'avantage des chiffres, c'est que ça remet tout de suite les choses en place. L'Europe est un des premiers émetteurs mondiaux de green bonds, des obligations vertes. Et la France est le premier émetteur en Europe, avec 70 milliards d'émissions de green bonds, ce qu'on appelle des obligations vertes. Alors, je rappelle, l'obligation verte, il y a des ratios extra-financiers qui qualifient l'obligation. Et dans les grands projets, vous l'avez rappelé d'ailleurs très justement, quand on qualifie les appels à projets ou ceux qui entrent en compétition, s'il n'y a pas les critères ESG, Bicorp pour certains, où ça va même plus loin, tout simplement, ça passe pas. Ce qui est intéressant, c'est justement cette notion extra-financière qui intègre finalement la finance dans la gestion d'actifs. Justement, Fabrice Allouche, est-ce que c'est un signe un peu, entre guillemets, post-capitaliste, du style le capitalisme est en train de se retrouver des vertus ?
Alors, je vais rajouter un point sur ce que vous venez de dire juste avant, c'est qu'il faut savoir que la France est le premier pays... en termes de ESG aujourd'hui, il faut le savoir, on est très 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 en avance.
Alors, par rapport à l'ensemble des... écologie, sociale, gouvernance.
Il suffit qu'il me dise ça pour que je le perde. Mm-hmm. Sociale, gouvernance, je ne sais même plus, c'est pas grave. Mm-hmm.
Environnement, sociale, gouvernance.
Ouais, c'est ça, voilà. Je vais dire oui, comme ça, ça m'évite de...
Non, mais c'est ça.
Non, mais c'est ça. Alors la question, c'était... Quelle est-elle par là, la question?
Alors, non, mais par rapport à l'émission de Green Bonds, oui. je prends une foncière qui a été caractéristique, ouais. c'est Gestinia qui a converti la totalité de son portefeuille d'obligations en green bonds, voilà, 6,5 milliards.
D'accord. Moi, j'ai une petite problématique là. C'est comment on transforme l'apparence développement durable pour une entreprise dans un cadre économique. Moi, ce que j'ai envie d'exprimer là, c'est que le côté économique est un substitut. C'est comme les qualifications ISR.
C'est intéressant parce qu'on en reparlera pendant le MIPIM, puisqu'on parle d'urbanisme apaisé hein, dans le MIPIM. Il y a vraiment quelque chose qui est très lié à la mixité de toutes les classes d'actifs. Et ces notions ont vraiment un raisonnement. Johanna.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Sylvain, la mixité des usages. Ça veut dire qu'un immeuble de bureau ne sera plus seulement un immeuble de bureau. Comment ça se traduit sur le terrain, Alexandre ?
Un immeuble de bureau, dans sa nouvelle version, on va dire ça comme ça, va chercher à apporter davantage de services, comme on l'évoquait, et de confort. Mais pas seulement aux utilisateurs d'un coworking. Nous, le coworker, on va le voir vraiment comme un service supplémentaire à l'immeuble. Même pour les usagers voisins qui vont pouvoir aller chercher cette flexibilité de façon ponctuelle sur ces espaces-là.
Mais alors quoi, c'est le coworking qui vient au service ou c'est les services qui viennent au coworking, Christophe ?
Je pense qu'on parle de la ville du quart d'heure, au-delà du coworking. Je pense qu'aujourd'hui, la
ça
capacité...
Revient, ça revient vraiment de plus en plus,
ouais, hein, cette notion je crois que
de bien-être, de ne pas mettre une plombe pour aller bosser.
C'est enfin, ça. Voilà, c'est ça, je crois qu'on ne le nommait pas avant, on disait la ville dans la ville. Voilà. On a mis un nom qui s'appelle la ville du quart d'heure, c'est un peu marketing, mais on voit quand même l'ensemble des projets immobiliers aujourd'hui qui sont des véritables projets mixtes. Et on voit des zones qui se développent plus ou moins bien en fonction de la capacité de l'aménageur, public ou privé, de proposer différents services qui sont du loisir, du bien-être, du professionnel, etc. etc. Et donc, ça va être un joli challenge pour l'endroit où nous sommes, hein, Nouvelle Ère, qui est assez neuf, d'apporter justement toutes ces expériences-là. Donc, il y a quelques restos, il y a quelques salles de sport, mais il faut beaucoup, beaucoup plus. Et il faut que les gens qui vivent ici, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas forcément travailler dans cette zone, mais qu'ils y trouvent une expérience positive pour leur vie professionnelle et pour leur vie personnelle.
Christophe, je regarde, est-ce que ça veut dire que les gens ne veulent plus attendre ? Est-ce que les gens ne veulent plus passer des heures ? Est-ce que les gens, finalement, veulent tout de suite ? Qu'il n'y a pas, dans cette notion de tech, moi je le vois avec les applications, c'est vrai, l'instantanéité, vous avez une nouvelle application qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui fait un carton en France, qui s'appelle Getir, qui vous garantit vos courses de première nécessité en moins de 10 minutes. Est-ce que ça veut dire que le tout de suite, ou l'instantanéité, ou la dictature de l'immédiateté, fait qu'aujourd'hui, quelque part, ça a un impact à la fois sur les modes de management, mais sur l'usage de l'espace en lui-même.
Moi, je crois que c'est encore plus simple que cela. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus passer de temps dans les transports. Et l'histoire du télétravail, c'est uniquement ça. On n'est pas en train de développer de nouveaux modèles complexes. Non, on dit simplement, est-ce que ça a un sens de prendre le RER à Paris tous les matins pour s'enfermer dans un bureau, faire de la comptabilité, ressortir du bureau à la fin de la journée et puis rentrer chez soi. Donc en fait, c'est ça le sujet. Et derrière, ça a beaucoup d'impact. Alors la révolution numérique permet ça parce qu'elle permet de travailler à distance. Et puis ensuite, il y a tous les projets dont je parlais qui doivent apporter cette mixité de services pour créer ce concept et mettre en œuvre son concept de la ville du quart d'heure.
Et de plus, je pense qu'en province... on n'a pas cette culture, c'est pas dans les mœurs d'utiliser régulièrement les transports en commun, du moins qu'en région parisienne, je pense. On a la culture de vouloir prendre la voiture, nous on le sent au niveau des usagers.
Oui, mais au niveau carbone, justement, ça n'a pas le même raisonnement.
Mais c'est intéressant. Faut que ça évolue.
Non, mais c'est très intéressant ce qu'on dit, parce que finalement, ça veut dire qu'il y a une vie en dehors de Paris et qu'en dehors de Paris, les usages ne sont pas les mêmes. Et que quelque part, la mobilité.
Mais parce que les moyens ne sont pas les mêmes également.
Exactement. Nous, ici dans la région, la demande des utilisateurs, hein, pour parler concrètement de notre quotidien, c'est que malgré le fait que le secteur, l'aréna, soit extrêmement bien desservi en transport en commun, il y a toujours une réelle volonté d'avoir du besoin en parking pour pouvoir stationner, pour pouvoir venir en voiture, etc.
Finalement, ça veut dire qu'il ne faut plus penser à l'échelle de l'immeuble uniquement, mais de tout le quartier. Christophe, vous avez l'air d'accord avec ça.
Mais oui, c'est ce.
J'en suis ravi.
C'est ce dont je parle avec la ville du quart d'heure. Oui, bien évidemment. C'est évident. Et puis les usages, notamment avec les nouvelles générations, le fait de sortir du bureau et d'aller faire un afterworks, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important pour l'expérience des gens, mais aussi pour la cohésion d'équipe. Et nous, on voit des patrons de boîtes qui nous disent qu'est-ce que vous avez à côté de votre spaces ? Est-ce que vous avez les restos, les bars ? Parce que sinon, les gens ne viennent pas chez nous.
Mais c'est comme quand on achète un logement, finalement.
Ben, oui.
On regarde tout ce qu'il y a autour, Fabrice.
Exactement ça. Mais je voudrais revenir sur un sujet qui est passionnant tout à l'heure, parce que vous êtes parti directement sur les bureaux, mais la réversion des actifs est quelque chose de passionnant, puisque la mairie de Paris est en train de réfléchir justement à changer son PLU pour adapter les nouveaux permis de construire de manière à pouvoir avoir de la réversibilité sur leur usage futur. Donc on peut être bureau, logement, etc. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on est toujours bloqué. Enfin, je pense qu'en région, ça va être la même chose. Dans les grandes villes, les PLU sont, on va dire, similaires. Et moi, je trouve passionnant qu'on ait cette capacité maintenant qui est offerte par le PLU de pouvoir modifier son bâti. Donc on le prévoit au départ, on en prévoit les usages futurs, mais en même temps, il n'y aura pas d'impossibilité à partir d'obtenir de nouveaux permis de construire. Et donc là, on revient à la mixité des bâtiments. Donc on peut tout à fait les faire passer 100% bureau.
Mais c'est vrai que, mixité. Pour illustrer votre propos, Paris, c'est à peu près 55 millions de mètres carrés de bureaux. Il y a 4 à 5 millions de mètres carrés qui sont aujourd'hui en vacances, locatives. 4 millions. Et sur les 4 millions, on a estimé, alors tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais on a fait une estimation, et on l'a fait d'ailleurs avec le journal Les Échos et Le Point, sur à peu près 2,5 millions de mètres carrés qui sont rendus, entre guillemets, obsolètes. Hein, quand je dis obsolètes, sur le plan de la rénovation énergétique, et qui permettraient, par exemple, de produire du logement. Est-ce que vous y croyez à ça ou alors, pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la grande mode, hein, sur la réversibilité.
Il y a plusieurs réponses. Alors, la première réponse, c'est de vous dire que le RIE, dont je suis administrateur, a fait la même étude. Et on l'a fait avec tous nos confrères, les principaux confrères. On est arrivé à 320 000 m² de bureaux susceptibles d'être transformés en logement.
D'accord. Ce qui prouve qu'on n'est pas tout d'accord sur les chiffres.
Il faut avoir un peu d'objectivité sur le sujet. Puis, comme par hasard, ils sont plutôt loin de Paris que proche de Paris, bien évidemment, puisque la demande parisienne est assez forte. Donc ça, c'est la première chose à mentionner. Maintenant, effectivement, on va vers quoi? Parce que les usages et locaux, tel qu'on vient de l'exprimer à travers les propos de Christophe, c'est qu'en fait, on va avoir moins besoin de bureaux, c'est évident. Donc maintenant, on a besoin de moins de bureaux. À quel endroit? De quelle qualité?
D'accord.
Donc si vous êtes mal positionné, bien évidemment, très clairement, les immeubles anciens qui vont arriver sur le marché, soit être loués à des prix très attractifs, ils vont immédiatement à la reconversion. Et ça, il va y avoir forcément une ouverture là-dessus. Mais penser que ça va se faire à Paris me semble très... Enfin, je ne vais pas faire de la politique, on est en plein dedans.
Non, mais plutôt, attention à ce qu'on dit. On va dire l'Île-de-France.
Voilà, l'Île-de-France d'une manière très... Oui, mais c'est justement, il faut séquenter l'Île-de-France, parce que la granularité, elle intervient. C'est-à-dire qu'on prend Paris, prenait la Défense, par exemple, il y a aujourd'hui des gens qui regardent des reconversions de tours en logement. Donc c'est un exercice assez particulier et difficile, mais quoi qu'il en soit, il existe. Et il faut savoir que la transformation de bureaux en logement, elle est intéressante qu'à partir du moment où les prix sont assez élevés, parce que plus vous allez à l'extérieur, plus il vaut mieux démolir, reconstruire. Donc on n'est plus du tout dans la même logique.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, entre la reconstruction et la rénovation, c'est-à-dire le fait de réutiliser effectivement l'île, c'est un vrai sujet, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Hein.
Exactement. Voilà.
Ça coûte moins cher de détruire, par exemple, que de reconstruire, plutôt que de rénover, par exemple.
Ben, ça dépend où on est.
Oui, voilà, ça dépend où on est.
Il y a des équations financières.
Justement, c'est propre à Paris ou on peut appliquer ça à toutes les grandes métropoles?
Je pense que les grandes métropoles sont la même situation. Oui, mais c'est essentiellement propre à Paris par culture un peu ancienne. Mais je pense
qu'on a toujours été un
ça.
Marché très particulier de toute façon.
Je ne sais pas ce que vous en sentez. Sous-entendez par particulier, mais c'est celui qui a plus de maturité et d'expérience. Mais là, j'ai travaillé très longuement sur Lyon. Là, on vient parce que là, je vais souvent à Lyon en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'activités lyonnaises. Je pense que tu dois exactement la ressentir comme moi. Et en fait, je m'aperçois que Lyon est en train de... Alors, je ne vais pas à nouveau juger la politique locale, mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que la création de mètres carrés, quel qu'il soit, en centre-ville, aujourd'hui, devient complexe, puisqu'on est confronté à une politique qui se veut... pas de construction en surdensité, pas d'extension, pas d'artificialisation des sols. Donc on est en train de créer une pression sur la ville. Et puis naturellement, la pression sur la ville, ça fait monter les prix automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Immédiatement, cette pression sort de la boîte. Hein, comme disent les Anglais, c'est out of the box. Et donc il y a des villes en périphérie qui commencent à avoir une croissance extrêmement rapide. Et là, on peut construire. Et donc il y a ce phénomène-là qui est en train de se créer. Et je pense que toutes les métropoles vont le vivre.
Alors justement, vous évoquez les villes moyennes, effectivement, ou les villes intermédiaires. Et on peut considérer Nice comme étant une ville intermédiaire. J'aime pas les villes moyennes.
Bon, c'est comme la troisième ou quatrième ville de France.
Oui, non, mais dans la qualification, on s'est amusé à voir la dimension démographique. Est-ce que vous avez vu, Alexandre, vous arriver des entreprises parisiennes, par exemple, qui misent sur la région parce que, effectivement, suite au confinement, il y a un peu, on rebat un peu les cartes. Et est-ce que la région tire son épingle du jeu de cette période de pandémie?
Alors, comme la plupart des marchés, on vit quand même essentiellement de demandes endogènes. Sur l'exogène, on essaye d'attirer un maximum d'entreprises. Quelques-unes se laissent tenter, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une réelle tendance d'implantation de grandes entreprises pour le moment qui vont se délocaliser complètement de la région parisienne pour venir s'implanter. Par contre, ce qu'on observe, et là, ça peut servir à Christophe et à Spaces, c'est que pas mal de personnes télétravaillent, pas forcément de chez elles, viennent chercher en fait, des espaces de travail sur des coworkers et viennent travailler trois jours par semaine sur Nice et montent une fois par semaine à Paris au siège social de l'entreprise.
Alors, il y a deux questions complémentaires, parce qu'il faut qu'on lie aussi votre présence au MIPIM, hein, qui s'ouvre demain. Une dimension internationale, quand même, c'est important. On est à l'aube d'un événement majeur. Ça fait 2 ans que cette forme de MIPIM ne s'était pas reconstruite, puisque ce qui a eu lieu en septembre 2021 était, on va dire, entre guillemets, un mini-MIPIM. Alors justement, j'aimerais avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous attendez de ce MIPIM, en sachant que le MIPIM, on voit bien que dans sa forme éditoriale, il y a une espèce de grosse appétence sur le logement et le résidentiel. On le voit très nettement quand même.
Bon, j'aurais aimé compléter la réponse d'Alexandre, mais on va rester sur le sujet du MIPIM. Mais c'est passionnant comme sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent quand même venir en région, qui ont des échelons nationaux ou internationaux, que nous on retrouve. Moi, je suis un prototype, de second prototype. Nous sommes un bel exemple. Donc dès qu'on veut croître ou faire de la croissance au niveau national, on peut aller en région.
Oui, complètement, mais je suis d'accord avec toi. Voilà.
Pour revenir sur le MIPIM, moi, ce qui m'intéresse dans le MIPIM cette année, au-delà de la fréquentation, parce qu'on parle de 16 à 18 000 personnes, donc on verra, parce que c'est déjà
environ, encore. Ce qui est déjà très bien.
C'est ce qu'on dit.
Ce qui est déjà très bien.
Voilà, c'est déjà très bien.
Moi,
ce qui m'intéresse, là, c'est de faire le bilan. Alors, surtout, c'est surtout un monde d'investisseurs, même quelques utilisateurs viennent, parce que là, on a quand même une... En 2022, je pense que 2021 a été une très très bonne année pour nous tous, donc on est assez satisfait de ce qui s'est passé. Mais quand je regarde 2022, moi, je m'interroge. Le Covid, quoi qu'on en dise, il a été assez présent, on dirait, au début de l'année. Il est encore présent, il suffisait d'écouter les actualités hier soir pour se dire que voilà. Donc les impacts du Covid sur l'exercice 2022 en manière de take-up local, je m'interroge. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est les présidentielles. Aujourd'hui, donc, il y a des élections présidentielles, un certain nombre de projets nationaux vont certainement ralentir. Donc quel impact ça va avoir? Le troisième sujet, c'est l'inflation. Aujourd'hui, on a une inflation à 5,2% en Europe, ce qu'on n'a jamais vu. C'est comment Mme Lagarde, qui est intervenue, je crois, c'est jeudi dernier, si je ne dis pas de bêtises, et qu'immédiatement, l'euro était monté de 10 centimes, et ça pourrait continuer à monter, parce qu'ils ont décidé, justement, de lever le pied sur les rachats d'actifs. Donc, ça veut dire que ça va influencer les taux d'immobilier. Bien évidemment, il y a ce qui se passe à l'Est. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser à la radio, donc je ne les utiliserai pas, mais tout le monde est conscient que ça va forcément peser sur les marchés. Ensuite, il y a bien évidemment toutes les hausses de matières premières, pétrole, etc., qui viennent influencer. Bien évidemment, quoi? C'est la consommation des ménages. Et les élections passées, qu'est-ce qu'on va avoir? On risque d'avoir des problèmes, parce que la réforme des retraites, elle est partie. Elle était en tout cas annoncée par M. Macron, grand favori des élections. Je m'arrêterai là. Et de l'autre côté, il y a quand même la consommation des ménages. Quand vous payez l'essence à 2,20, 2,40, voire 2,80 dans Paris, je l'ai vu, il y a un moment, il y a un déséquilibre. Donc tous ces éléments là, que j'aligne un peu rapidement, ça peut nous donner des interrogations sur qu'est-ce que sera 2022. Moi, ce que j'en retire, c'est que les investisseurs, quoi qu'il en soit, c'est assez le paradoxe. D'ailleurs, c'est l'ambivalence de notre métier, d'ailleurs. C'est que d'un côté, on a les investisseurs qui, par dit frilosité, vont plutôt aller chercher des actifs dits ultra sécurisés. Et puis de l'autre côté, il y a les entreprises qui vivent de la consommation des ménages d'une manière générale. Ils vont lever un peu le pied parce qu'il y a approvisionnement, coût, etc. Donc on a un problème de comment va se lire le marché. Et moi, je rajouterai un autre élément qui m'intéresse beaucoup, c'est l'application de la loi énergie-climat dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les investisseurs sont confrontés à une obligation de transformer leurs actifs pour répondre aux attentes de la loi. Je pense qu'elle n'est pas encore coercitive, mais je pense qu'elle va devenir coercitive. Ça commence en logement.
Bon, en tout cas, d'ailleurs, le calendrier a été posé 2023-2025 et jusqu'à 2034. Étiquette, 7 étiquettes énergétiques, 2 qui seront retirées du marché locatif dans les 10 prochaines années.
Exactement. Donc ça veut dire location. Puis en plus, les entreprises vont faire leur choix par rapport aux actifs, les investisseurs également.
C'est 4 800 000 logements concernés.
Enfin, là, je parlais plutôt des bureaux et de l'entreprise.
Pour le logement, ça donne tout de suite des chiffres significatifs.
D'accord, c'est pour les investisseurs surtout. Mais ce que je voulais dire, maintenant, il faut que je retrouve mon cheminement. oui, c'est ça, c'est le financement de ces travaux. Parce que le financement de ces travaux, ça a été chiffré par un de mes confrères en Europe à 1000 milliards d'euros de travaux, ce qui est un truc gigantesque. Alors, bien évidemment, le parc est énorme. Mais quoi qu'il en soit, si on le ramène sur la France, quelle est l'alternative d'un investisseur aujourd'hui qui est propriétaire d'actifs bien connus, des foncières cotées ou des asset managers de renom international. Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'un côté, soit vous traitez vous-même Et soit vous faites de la dette, soit vous vendez des actifs pour pouvoir faire du green. Donc parce qu'il faut bien remettre à niveau vos immeubles, avec la difficulté de le faire au fil du temps, parce que vous avez des baux, vous avez des locataires, il y a des gens en place, ça ne se fait pas comme ça. Et puis de l'autre côté, il y en a d'autres qui vont se dire, j'ai pas envie, donc je vais mettre sur le marché les actifs. Ce qui peut nous rendre service en termes d'agents, faut être clair, puisque ça va alimenter le marché. Mais là, on va avoir des produits dits à dead value, c'est-à-dire des produits à spéculation. Voilà, donc maintenant, quel écart de prix se fera entre le sécurisé et le dead value? Je pense que l'écart va gentiment grandir. Et si jamais vous rajoutez des localisations où on parlait de l'empreinte carbone tout à l'heure, là, il peut y avoir un vrai impact sur les valeurs de marché. Donc il y a un équilibre. 2022 peut être assez surprenant. Moi, je suis assez confiant. De toute façon, je suis toujours optimiste. Donc en fait, je pense qu'on va traverser tout ça comme on en a eu l'habitude dans le passé. Mais c'est intéressant de voir tous ces épiphénomènes. On en reparlera jeudi d'ailleurs.
On en reparlera jeudi.
Deux jours, prochaine interview. Voilà, et moi, je trouve ça passionnant de suivre cette année 2022. Va être passionnante.
En tout cas, ce qui est passionnant, c'est de vous écouter.
Merci beaucoup, Fabrice Allouche, pour cette conclusion. Vous le disiez, on vous retrouve jeudi en direct du MIPIM sur notre antenne, jeudi matin. Et puis, on pourra reparler de tout ça. Et puis, des régions aussi, si vous voulez, puisque j'ai cru comprendre que ça vous tenait à cœur. Merci encore. Je rappelle que vous êtes le président de CBRE. Était avec nous également Christophe Burkard, directeur général d'IWG France. Merci à vous. Vous, Christophe, c'est demain matin qu'on vous retrouve en ouverture du MIPIM pour cette édition 2022. On sera ravis de poursuivre sur ce sujet du Flex Office avec Marie Dixon,
le créateur effectivement du groupe. Et je tiens également demain à parler des régions. J'ai beaucoup de choses à dire et on n'a pas eu le temps de le faire. Donc demain matin, il faut absolument que Fabrice...
On peut faire une interview.
Il y a beaucoup de choses à dire.
On vous laisse vous organiser, vous nous donnerez votre planning, mais il n'y a aucun souci. Alexandre Vernier, merci. Bon, vous, je suis désolée, on ne vous retrouve pas au MIPIM cette année, mais qui sait.
J'y serai, mais pas derrière le micro.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous êtes le cofondateur de LocoPro. Sylvain Lévy-Valencier était également avec nous et avec ses chiffres. Vous aussi, Sylvain, vous serez sur le MIPIM, mais pas que demain, pas que jeudi, puisque vous y serez pour toute la semaine.
Voilà, jeudi, je serai avec le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Et je voudrais qu'on conclue, si vous voulez bien, cette première partie sur une pensée émue que nous avons pour un grand monsieur de l'immobilier qui nous a quittés brutalement, très brutalement, vendredi dans la matinée. Il devait être avec nous à 13h pour une grande émission. Je voudrais qu'on dédie cette première partie d'émission à Laurent Vimont, le président de Century 21, trop rapidement disparu, un grand monsieur de l'immobilier. Merci à tous.
Évidemment, on pense bien à lui. Cette émission est désormais disponible en podcast. Restez bien avec nous puisque on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission spéciale en direct et en public du Spaces Grand Arena de Nice. À tout de suite.
Inauguration du Spaces Grand Arena à Nice sur Radio Imo et Cowork la radio.